Deuxième partie. John Slavins entra. L'établissement était bondé. À chaque table, des dîneurs en habit de soirée, des femmes en robe de soie décolletée, mangeaient au son d'un orchestre de nègres dissimulé derrière un amas de plantes vertes. Autour du comptoir de cuivre, des gentlemen, perchés sur de hauts et étroits tabourets, sirotait lentement, avec la gravité qui convient à une si importante opération, d'innombrables whisky soda. John Slobbins regarda autour de lui. Sans doute il ne vit pas ce qu'il cherchait, car il alla droit au gérant, grand gaillard brun et rasé, qui les mains derrière le dos surveillait le va-et-vient des garçons nègres, et lui demanda « Monsieur Buggy Black n'est pas venu ce soir ?» L'homme parut embarrassé. « Je ne sais pas, gentleman. »« Mais si, vous le savez. Alors, il n'est pas là, hein? Répondez, oui ou non. »« Je ne crois pas. »« Well, et à quelle heure viendra-t-il »« Monsieur Buggy Black n'a pas d'heure. »« S'il vous arrive malheur, mon ami, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. » »« Tenez, voilà votre portefeuille que je viens de vous enlever. » Il paraît assez bien garni. J'aurais pu le garder sans vous aperceviez de rien. C'est donc un riche cadeau que je vous fais. Soyez donc assez aimable pour me dire quand je pourrai voir M. Buggy Black. Ce disant, John Slobin, souriant, tendait au gérant ahuri son portefeuille qu'il lui avait habilement subtilisé. L'homme, un peu pâle, se saisit du précieux maroquin et balbutia « Oh, gentleman, croyez que je ne vous ai pas menti. Monsieur Buggy Black vient ici tous les soirs à 11 heures. Il viendra certainement tout à l'heure, mais... »« Quoi ?»« Oh, ma montre, vous m'avez aussi pris ma montre, gentleman, » fit le gérant, complètement désorienté. « C'est ma foi vrai, la chaîne avec... » Et voici le tout. Puisque vous me dites que M. Buggy Black vient vers 11 heures, je vais l'attendre en dînant. Vous me ferez servir à la table là-bas, près de la porte. Oui, gentleman, affirma le gérant, en accrochant à son gilet la chaîne d'or à laquelle pendait la montre que John Slobbins venait de lui restituer. Et ne vous avisez pas de me créer des ennuis, conseilla le détective cambrioleur, sinon il vous arriverait des choses désagréables. » D'un geste indigné, le gérant affirma que telle n'était pas son intention. Et tandis que John Swabin se dirigeait vers la table qu'il avait indiquée, il le regarda s'éloigner de lui avec soulagement. Le détective cambrioleur, le sourire aux lèvres, se fit servir un menu délicat et soigné. Il y fit honneur et, vers 10h30, se fit apporter l'addition qu'il solda en y joignant un royal pourboire pour le garçon qu'il avait servi. Puis, un cigare en bouche, il regarda paisiblement la monumentale horloge du bar dont le cadran figurait une lune percée d'un trou. C'était de cette horloge que l'établissement tirait son nom. L'aiguille marqua 10h35, 10h40, 10h45. Monsieur Buggy Black n'apparaissait pas toujours. À 11h, John Slobin commença à donner quelques signes d'impatience. De la main, il appela le gérant. « Mais ce retard est incompréhensible !» affirma ce dernier. « Monsieur Buggy Black vient toujours avant 11 heures. Il va certainement arriver d'un moment à l'autre. Well, j'attendrai. » 11h15 et pas de Buggy Black. Un homme entra, dont la mine peu soignée contrastait avec l'élégance des habitués du bar. John Slobin se reconnut en lui, du premier coup, un détective. Il le vit se diriger vers le gérant et lui parler à voix basse. Le gérant pâlit et donna aussitôt des signes d'une profonde agitation. Pendant quelques minutes, les deux hommes causèrent. Le détective prit quelques notes, puis, après un regard circulaire sur l'assistance, sortit. John Swabbins, qui, depuis l'entrée du policier, se tenait sur ses gardes, prêt à tout, se leva aussitôt et courut au gérant. Que vous a dit ce détective? Lui demanda-t-il à brûle-pourpoint. Décontenancé, l'homme regarda son interlocuteur avec terreur. Monsieur Mugiblague vient d'être assassiné. On l'a retrouvé avec un poignard dans le dos au coin du Toronto Avenue. Assassiné? Gronda John Strabis dont les yeux lancèrent un éclair. Imbécile que je suis, mais j'aurais dû le prévoir. Et laissant le gérant stupide et hébété, il bondit vers la patère où était accroché son manteau et son chapeau, empoigna le tout et en trombe franchit la porte et disparut. Une automobile passait, elle était vide. Sans même la faire arrêter, John Swabbins en ouvrit la portière en même temps qu'il sautait sur le marchepied et cria au chauffeur. Sixième avenue, numéro 55, quick, quick! Le chauffeur, en bon américain, n'en demanda pas plus. Et tandis que son client se laissait tomber sur les coussins, il accéléra la marche de son véhicule qui fila à toute vitesse vers l'adresse indiquée. À le temps, John Strabins murmura. L'affaire est belle, mais si je réussis, je pourrais dire que je ne me suis jamais autant donné de mal. En moins de 10 minutes, l'auto arriva à l'adresse indiquée et s'arrêta devant une haute maison dans laquelle le bronze et le marbre avaient été prodigués. John Strabin sauta sur le trottoir, lança 2 $ au chauffeur et courut vers la porte d'entrée de la somptueuse bâtisse. Il sonna, il n'eut pas à attendre longtemps. La porte s'ouvrit aussitôt. Le détective cambrioleur la franchit et se trouva sous une voûte éclairée par de nombreuses lampes électriques. D'une porte latérale, un nègre, vêtu d'un uniforme de drap garni de galons d'or, sur toutes les coutures, apparut. Que désirez-vous, gentleman? Dit-il l'air insolent. Je veux voir à l'instant Monsieur Jérémy Flipote. Oh! S'exclama le nègre, comme s'il se trouvait scandalisé d'une pareille prétention. Il est impossible, en vérité, de voir Monsieur Flipote en ce moment. D'abord, Monsieur Flipote est en voyage. Mon garçon, tu vas aller dire à Monsieur Flipote que c'est de la part du capitaine Sam Arundel. Tu entends, Sam Arundel. Et il me recevra tout de suite, c'est moi qui te le dis. Tiens, voilà 5 $ pour ta peine. Et va vite, car tu risques en ce moment de perdre ta place. Et elle est bonne, si j'en juge par ta mine. Apeuré par la menace et adouci par le billet de 5 $ que venait de lui glisser John Robbins, le moricaud murmura. C'est bien, gentleman, je vais aller faire prévenir Monsieur Flipote de votre présence, s'il est revenu. Mister Samar Rundel, n'est-ce pas? Oui, c'est cela même. Voulez-vous entrer chez moi, gentleman? Non, allez, va vite, j'attends ici. Un peu dépité de voir son offre décliner, le nègre, sans insister, marcha vers une porte vitrée qui donnait dans la cage de l'ascenseur et disparut. Il revint 5 minutes plus tard. À sa figure, John Swabbins devina qu'il avait été mal reçu. Eh bien, demanda le détective cambrioleur, qu'a dit Monsieur Flipote? Monsieur Flipote n'a rien dit. Monsieur Flipote est parti en voyage depuis 2 jours. Comment? Oui, gentleman. Il devait revenir hier soir, même que Mrs. Flipote est très inquiète. Elle m'a dit de tout faire savoir qu'elle ne savait pas elle-même Où était monsieur Flipote? John Chobbins eut besoin de toute sa volonté pour rester calme. Après un instant de silence, il s'écria « Well, mon garçon, merci, je reviendrai. » Et sur ces mots, il sortit. Dans la rue, il murmura « Mais ah, oh, ça, mais aurais-je trouvé mon maître ?» Depuis le commencement de cette soirée néfaste, M. James Molescott vivait dans une sorte de rêve. Malgré son endurcissement professionnel, il n'en était pas moins surpris et ému par le mystérieux drame du corps Isandre. En quelques heures, tant d'événements tragiques, autant qu'incompréhensibles, s'étaient déroulés que le chef de la Sûreté de San Francisco cherchait en vain à mettre quelque ordre dans son esprit dérouté et aussi à relier entre eux tant de faits disparates. Il aurait pourtant espéré en venir à bout si le nom de John Chobbins n'eût point été prononcé. Dans le poste de police de Toronto Avenue, James Molescott se rappelait la scène du corps Isandre. Ce matelot que était venu expirer à ses pieds en râlant « John Chobbins !» Mais que venait faire John Chobbins dans ce drame effrayant? C'est ce que James Molescott se demandait, tandis que l'inspecteur Mason, interrogé par lui sur M. Buggy Black, répondait « Nul ne connaît d'ennemi déclaré à M. Buggy Black. C'est, comme vous le savez, chef, un ancien mineur qui, avec les quelques pépites qu'il a recueillies en Australie, est venu à Frisco fonder le Moon's Horn Bar. C'est un établissement très prospère. Je sais, fit brièvement Molescott, toujours plongé dans ses réflexions. Le médecin qui soignait le blessé s'approcha de lui. Je m'en vais, monsieur Molescott, dit-il. Je n'ai plus rien à faire ici. L'hémorragie s'est arrêtée. Bien qu'à laisser reposer le blessé et, s'il le demande, lui donner une cuillerée de la potion dont voici l'ordonnance. Je reviendrai demain matin pour aviser au transport de monsieur Buggy Black à l'hôpital, s'il vit encore. Vous craignez une issue fatale? Demanda Molescott. Hélas, oui, pourtant, on ne sait jamais. Oh, j'aurais bien voulu pouvoir l'interroger. Son assassinat se rattache à une mystérieuse et troublante affaire que j'aurais aimé élucider, murmura Molescott. Vous gardez-vous-en bien, le blessé dans le coma. Son organisme, ébranlé par le choc et le sang perdu, ne résisterait pas à la moindre émotion. Allez. « Je vous salue, gentlemen. » Médecins et policiers changèrent un vigoureux check-in. James Molescott resta seul avec l'inspecteur Mason. Il allait parler lorsque la porte s'ouvrit. Un détective entra et, en voyant le chef de la sûreté, s'immobilisa, surpris. « Wait away !» s'exclama Molescott en reconnaissant le nouveau venu. « Vous venez de chez M. Buggy Black, n'est-ce pas ?»« Oui, chef. Vous avez du nouveau ?»« Comme ça. Le gérant de Moon's Hall Bar m'a raconté que vers 9 heures, un individu assez élégant était venu lui demander un entretien avec M. Buggy Black et que, comme le gérant lui répondait évasivement, il l'avait menacé d'une vengeance s'il ne s'expliquait pas mieux. Puis l'inconnu, pour mieux faire parler le gérant, lui avait montré son portefeuille et sa montre qu'il lui avait subtilisé pendant qu'il parlait. « Mais ça ne peut être que John Chobbins !» éclata Molescott. « Il n'y a que lui pour avoir une pareille audace. Et après ?» Après, chef, l'inconnu est resté dans le bar jusqu'à 11 heures. Il a dîné, il a payé exactement sa note et a donné un magnifique pourboire au garçon. Ah oui, car j'oubliais de vous dire que le gérant avait fini par lui révéler que Monsieur Biggie Black venait chaque soir vers 11 h au Moonsbar Hall Bar. Et John Robbins, enfin je veux dire l'individu en question, n'a parlé à personne dans le bar? Il n'a pas échangé de signes avec quiconque? Non, j'ai demandé au gérant, qui m'a affirmé n'avoir rien remarqué, bien qu'il n'eût pas quitté des yeux son étrange consommateur, dont l'honnêteté lui inspirait des doutes. Mais pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police? Cet homme avait commis sur lui une tentative de vol. Vous savez, chef, dans ces établissements, on n'aime pas trop avoir affaire à nous. Imbécile! Et à quelle heure l'homme est-il sorti du bar? Ce point est important, right away. Bon, j'ai fait attention, chef. Eh bien, l'individu était toujours devant sa table lorsqu'un des détectives qui avait relevé Monsieur Biggie Black entra dans le bar pour s'en faire part au gérant. Hein? Oui, chef. Et le détective parti, l'inconnu se leva et rejoignit le gérant à qui il demanda: Que vous a dit le détective? C'est John Robbins, démon, sacra Scott. Le gérant, troublé, apprit à son interlocuteur l'assassinat de Monsieur Basil Black, sur quoi l'individu, très ému, courut prendre son pardessus et son chapeau et quitta le bar en courant. Et cet imbécile n'eut pas l'idée de le suivre. Non, chef, je le lui ai demandé. Il m'a dit de ne pas y avoir pensé. Et après? Oh, c'est à peu près tout, chef. Des voisins croient avoir vu l'inconnu monter dans une auto, mais ils sont pas affirmatifs. À cette heure-là, tous les clients du Moots Hall Bar, ou presque, s'en vont en auto. Il faudra rechercher cette voiture. Vous ferez une note. Quoi? Des gémissements se faisaient entendre. James Molescott s'interrompit et se pencha vers le matelas où gisait le blessé. Monsieur Biggie Black avait ouvert les yeux. De ses lèvres sèches, au coin desquelles restait encore un peu de sang coagulé, un murmure indistinct et saccadé sortait. Le chef de la sûreté se baissa jusqu'à ce que son oreille touchât presque les lèvres du blessé. Celui-ci cessa de gémir, comme s'il rassemblait ses forces. Puis, d'une voix faible, sifflante, oppressée, mais suffisamment intelligible, il balbutia: Diamant, voleur! Assassin, mort, Smiley, assassin, flipote, diamant. Quoi? Questionna Molescott. Expliquez-vous. On vous a assassiné pour vous voler des diamants. Oui. Qui? Non. Mais comment non? Vous dites oui et puis après non. Je vais vous expliquer. Ne vous fatiguez pas, dit Molescott, qui, entraîné par la curiosité, oubliait totalement la prescription du médecin. Je vais vous interroger, vous répondrez par oui et par non. Molescott, épouvanté, se redressa. Comme galvanisé, le mourant venait de relever la tête et, dans un dernier râle, crachait à la fois une gorgée de sang et son dernier reste de vie. Le chef de la sûreté, très pâle, se pencha sur lui et reconnut qu'il était mort. Malheur et malédiction, gronda-t-il. Il est mort. L'inspecteur Manson ne répondit pas. Il était aussi ému que son chef. Et après un instant de silence, James Molloy Scott marcha vers une table voisine et, un peu calmé, attira à lui un papier et un crayon. Il écrivit les quelques paroles prononcées par Beggy Black. « Diamant, voleur, assassin, mort, smiley, assassin, flipote, diamant. » Il réfléchit et murmura après avoir relu. « Oui, c'est bien cela. Il ne m'a pas dit autre chose. Non, non. Mais quels sont ces diamants pour lesquels on l'a assassiné? Et ce smiley, ce flipote, flipote. Serait-ce Jérémy Flipote de la 6e avenue? Il est riche pourtant. Ben, sait-on jamais? Oh, c'est à voir. » Soigneusement, James Molloy Scott inséra le papier dans sa poche et, pris soudain d'une idée subite, s'écria « Continuez l'enquête, Mason. Je m'en vais. S'il arrive quoi que ce soit, téléphonez-moi à l'hôpital de Templehead et j'y suis plus à mon bureau de la sûreté. » « Bien, chef. Au revoir et bonne chance. » Molloy Scott sortit. La Toronto Avenue était complètement déserte. Il était près de 2 heures du matin. Le chef de la sûreté, renonçant à trouver une voiture, prit dans sa poche un revolver qu'il tint tout armé à la main et, marchant au milieu de la chaussée pour éviter toute surprise, il se dirigea à pas rapide vers l'hôpital de Templehead. Il y arriva une demi-heure plus tard et se vit immédiatement conduire au chevet de William Winkler, le chief officer du corps Isandre. Le marin, placé dans un bon lit par les soins de Peter Cransby, dormait à point fermé. Il devait y avoir longtemps, sans doute, qu'il n'avait fait pareille somme. Durement, Molloy Scott l'éveilla, et à brûle pour point, sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, lui dit « Je suis le chef de la sûreté. Je viens vous annoncer que vous êtes accusé par M. Buggy Black d'avoir assassiné le subrécargue de votre navire. » « Moi ?»« Oui, vous. Comment s'appelait ce subrécargue ?»« Thornton Smiley. » « Oui, c'est bien cela. Et vous avez commis ce crime pour vous emparer des diamants que M. Smiley a portés à M. Buggy Black. »« Moi, mais quel diamant ?»« Vous niez, à votre aise. Sachez cependant que ce soir même, vos complices ont assassiné M. Buggy Black. Il est mort en vous accusant. D'ailleurs, il vous avait accusé déjà tout à l'heure devant moi. » Oui, et même il affirmait que j'avais l'intention saugrenue de m'emparer du navire. Maintenant, il m'accuse de lui avoir volé des diamants. Après votre départ, je m'en souviens maintenant, oui, il m'a parlé de diamants. Comme je ne le comprenais pas, il n'a d'ailleurs pas insisté, il m'a laissé en paix. Je m'étonne qu'il ait encore pensé à moi. Je suis un pauvre officier, monsieur. Je suis blessé et estropié pour la vie. Et voici que l'on m'accuse du plus grand des crimes. Mon innocence éclatera. Pour l'instant, je ne demande qu'un peu de pitié. Depuis 2 mois, je suis sans soins. Ce soir, j'ai failli être noyé. Oh, laissez-moi reposer, monsieur, je vous prie. James Molloy Scott ne put, quoi qu'il fît, rien tirer d'autre du blessé et se retira la rage au cœur. En sortant de la maison de Jérémy Flipote, John Strobin s'était demandé s'il n'avait point par hasard trouvé son maître. Ainsi qu'on le verra plus loin, le détective cambrioleur avait depuis de longs mois médité et préparé tout pour réussir dans l'entreprise qui le préoccupait. Et voilà que, l'un après l'autre, Les principaux personnages du drame lui glissaient entre les doigts. Buggy Black assassiné, Jeremy Flippant disparu. John Shobbins, pourtant, n'était pas homme à se laisser aller au découragement. Après avoir réfléchi quelques brèves minutes, il se dirigea vers le Stock Exchange et là, sauta dans un tramway allant vers le port. Il regarda sa montre. « Bon, minuit moins 20, murmura-t-il, j'ai le temps. » Arrivé sur le port, il descendit et d'un pas délibéré marcha vers un des nombreux escaliers creusés dans les quais et au bas duquel un petit canot était attaché à une chaîne de fer que fermait un cadenas. John Shobbins, tranquillement, tira une clé de sa poche, ouvrit le cadenas, dépassa la chaîne et sauta dans le canot. Il se baissa et empoigna une paire d'avirons qui se trouvaient au fond. Et après les avoir mis en place, il s'assit et rama vigoureusement vers la passe de Golden Gate. Il contourna le musoir fermant le port et se dirigea vers les hautes falaises de Cliff House que la lune, à ce second quartier, éclairait d'une lueur blafarde. Maniant habilement la légère embarcation, John Shobbins se glissa entre les rocs, parsemant la mer au pied des falaises, et au risque d'être 20 fois brisé contre eux, parvint à gagner une sorte de grotte creusée par le flot dans la muraille de granit, et dont l'entrée était si basse et si étroite qu'il dut se coucher à plat ventre sur les bancs du canot pour éviter d'en heurter la voûte. Toujours courbé, le détective cambrioleur s'accrocha à la paroi du roc et ainsi fit lentement avancer son canot. Après avoir parcouru environ 300 mètres dans le canal souterrain, éclairé seulement par la minuscule lampe électrique qu'il portait avec lui, John Shobbins arriva enfin devant un énorme quartier de rochers qu'obstruait complètement le conduit. La pierre devait être en équilibre car, sans effort apparent, le détective cambrioleur la fit tourner sur elle-même et ainsi découvrit un passage étroit mais plus que suffisant pour donner passage à l'embarcation. D'une poussée, John Shobbins s'y engagea. Il franchit un court espace voûté et se trouva dans une vaste salle creusée dans le roc et traversée dans son plus grand diamètre par une sorte de canal qui aboutissait au passage par lequel il venait d'arriver. Derrière ce dernier, le bloc de rocher s'était automatiquement remis en place. Le détective cambrioleur, en 2 coups d'aviron, approcha son embarcation de la berge et sauta sur le roc. La salle souterraine paraissait déserte. 4 lampes à acétylène fixées au mur, une sur chacune des faces, l'éclairaient comme en plein jour. De son pas souple, John Shobbins se dirigea vers une porte massive encastrée dans le roc, l'ouvrit au moyen d'un ressort secret, et en ayant franchi le seuil, se trouva dans une pièce plus petite, confortablement meublée. Les murs étaient tendus de fines nattes japonaises, le sol recouvert d'un épais tapis de laine. Sur une table d'acajou incrustée d'or, une lampe de porcelaine de Chine répandait autour d'elle une douce clarté. Fauteuil profond et divan moelleux invitaient au repos. John Shobbins s'assit et pressa sur le bouton d'une sonnerie électrique dissimulée entre les nattes du mur. Presque instantanément, la porte s'ouvrit, et un homme d'une taille élevée, presque un géant vêtu en policeman, parut. « Goodbye, Renaud !» fit Shobbins. « Tu t'attendais pas à me voir si tôt, hein ?»« Mauvaise nouvelle, Buggy Black est mort, vous n'en vaut guère mieux. » Quant à Jérémy Flipote, il a tout simplement disparu. Je te l'avais dit que tu n'étais pas le seul chasseur sur la piste. C'est vrai, mais le gibier sera pour moi. Savoir, John, qui soupçonnes-tu de ce double coup? Je ne soupçonne personne. J'ai une certitude. Les marins du Corizon sont tous ici, n'est-ce pas? Oui, tous, sauf que cela aurait été difficile de les capturer. Ils ne se donnaient pas debout. Quant au capitaine, Molescott l'a fait envoyer à la sûreté. Well, il est fou. Tu ne les as pas laissés communiquer avec Benawick. Oh non! Alors, tout va bien. Tu vas m'amener Benawick ici, ce qui te permettra d'assister à un intéressant entretien. Allez, fais vite. Oh, je suis là de suite. Renaud disparut aussitôt. John Robbins, un sourire énigmatique aux lèvres, pris d'une cigarette d'Orient dans l'étui d'or qu'il retira de sa poche, l'alluma et en aspira voluptueusement l'odorante fumée. Malgré sa robustesse, il commençait à sentir la fatigue. La porte violemment ouverte donna à cet instant passage à Renaud, qui poussait devant lui Benarvik, alias Brazil Stockman. L'ex-maître d'équipage du Corisandre faisait triste mine. Il avait les poings liés et les chevilles entravées au point que c'était à peine s'il pouvait bouger. D'une rude bourrade, Renaud le fit choir au pied de Strobins. « Allons doucement, mon ami, comme tu y vas !» conseilla le détective cambrioleur en tirant une bouffée de sa cigarette parfumée. « Remettez-vous, maître Benarwick, remettez-vous. On fait ce qu'on peut, et je regrette de ne rien pouvoir vous recevoir. Mais je vois dans vos yeux que si je vous faisais délier, vous me poignarderiez. » « Sûrement, » affirma le prisonnier d'une voix rauque. « Merci, mais parlons de choses sérieuses. J'ai l'honneur de vous apprendre, maître Benarwick, que M. Buggywack a été assassiné cette nuit et que son associé, vous voyez que je suis bien renseigné, son associé, M. Jérémy Flipote, a disparu. Cela ne vous dit rien? Que voulez-vous que cela me fasse? Pas de chagrin, bien sûr, mais c'est pas tout. Figurez-vous, maître Benarwick, qu'en plus de votre nom, je connais votre profession. Il existe à Frisco une association qui s'appelle la main ouverte. C'est une main ouverte pour recevoir ce qu'on veut bien lui donner et aussi ce qu'on ne veut pas lui donner. Et vous en êtes un des principaux membres. C'est la main ouverte qui a fait assassiner Buggy Black et Philpotts, comme c'est vous qui avez supprimé Thompson Smiley, blessé William Winkler et rendu fou à Houndel. Vous me comprenez? Non? Ah, cela c'est franc. Je m'en excuse, car si vous ne me comprenez pas, la faute en est à moi qui ne me fait pas bien comprendre. Je dis donc que vous allez me révéler l'endroit où la main ouverte enferme ses prisonniers, afin que je délivre Flipote. Vous vous doutez pourquoi? Donc, parlez. Où se trouve le repère de main ouverte? Vous pouvez me tuer, je vous le dirai pas. D'abord, je fais pas partie de la main ouverte. Mais je ne veux pas vous tuer, maître Avic. Je ne tue jamais personne. Seulement, comme 11 de vos amis, les marins du Corisandre, sont enfermés ici. Si dans 10 minutes vous ne m'avez pas répondu avec franchise, je les livrerai à la justice et leur ferai connaître que c'est vous qui en êtes la cause. Ah, mais vous ne ferez pas cela, rugit Benavik en proie à une terrible fureur. Non, je me gênerai. Et l'on parlera du traître Benhaouik. Oh, vous croirez pas, mes camarades me connaissent. Possible. Et je prendrai soin de leur dire ce qui s'est passé à bord du Corisandre. Que vous êtes arrangé avec moi. On me croira. On croit toujours au mal. D'autant plus que je n'ai pu être renseigné que par vous. Pas vrai, cher Benhaouik? Le prisonnier grinça des dents, mais ne prononça pas un mot. James Robbins, ayant terminé sa cigarette, en alluma une seconde. Après un long silence, Benhaouik se décida à parler. Alors, si vous ferez cela, dit-il en tournant la tête vers John Stubbins. Oui, je le ferai. Et si je vous révèle où est le repère de la marne ouverte? Oh, dans ce cas, j'enlèverai Jérémy Flipote et j'oublierai ce que j'aurais vu. Je ne suis pas chargé de la police de Frisco, moi. Et à moi, que me ferez-vous? À vous, Benhaouik? Je ne vous paierai pas ce que je vous dois, c'est-à-dire une balle dans la tête. Mais, foi de John Robbins, je vous rendrai la liberté et 10 000 $ avec. Oh, 10 000 $, c'est pas lourd. Mais c'est plus lourd que rien. Allez, où est le repère de la main ouverte? Au village d'Olima, fit Benhaouik, comme un homme qui se jette à l'eau. C'est au Bishop Bar, dans la cave. Du moins, c'était là, il y a 8 mois, avant mon départ. Il y a un mot de passe? Oui, hanger. Pendre, couteau. Well, oh, si vous avez dit vrai, demain vous serez libre. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, mon ami Renaud, ici présent, vous fera subir certaines tortures qui lui ont appris les Indiens, Navajos. Vous me comprenez? Tout est bien alors. Renaud, je vais dormir 1 heure sur ce canapé. Préviens 12 de nos hommes et qu'ils soient prêts à partir dans le canot automobile. Ramène ce gentleman chez lui. À demain, maître Benhaouik. Et tandis que Renaud faisait lever le prisonnier et le poussait dehors, John Robbins, jetant sa cigarette, s'étendit sur un divan et s'endormit immédiatement. 1 heure plus tard, Renaud vint le réveiller. Aussitôt debout, le détective cambrioleur sortit. Dans le canal traversant la grande crypte, un canot automobile, ras sur l'eau et dans lequel 12 gaillards armés jusqu'aux dents étaient assis, attendait. Le ronflement de ses moteurs résonnait puissamment sous les voûtes de granit. À tout à l'heure, Renaud, fit John Robbins en sautant dans la légère embarcation. Il alla se mettre à la barre et, à son commandement, le canot s'engagea dans le canal souterrain et flotta bientôt au pied des falaises de Cliff House. Habilement, John Robbins guida l'embarcation au milieu des récifs et la lança vers le large. Moins de 20 minutes plus tard, le canot s'échouait sur la plage du village d'Olima. Vous allez me suivre jusqu'à l'entrée du village, les enfants, et ne viendrez que si vous entendez mon coup de sifflet. Sinon, vous me guetterez et me suivrez lorsque vous me verrez revenir vers la plage. Et soyez prêts à tout moment à tirer. Gardez vos revolvers armés. Avec les gentlemen de la maison, main ouverte, il faut s'attendre à tout. Tom, toi, tu vas rester dans le canot. Une fois que nous serons débarqués, tu te tiendras au large, les moteurs à petite vitesse, de façon à nous recueillir et fuir à toute allure, le cas échéant. Tout le monde a compris? Oui? Bon. Alors en avant. Et ne craignez pas de vous mouiller les pieds. Je suis sur une bonne affaire qui vous vaudra chacun 10 000 $, car si elle réussit, mais pas de bruit, surtout pas de bruit. Sur ces mots, John Swabin sauta à la mer qui, à l'endroit où le canot était échoué, était profonde de 40 cm. Ces 11 hommes le suivirent. D'un pas leste, le détective cambrioleur se dirigea vers le village de Lima, dont les maisons basses se détachaient sur le ciel de velours sombre. À 50 mètres derrière lui, sa petite troupe se mit en marche et s'arrêta au milieu d'un buisson de hauts cactus un peu avant d'arriver aux premières maisons de la localité. John Robbins, seul, poursuivit son chemin. Il arriva ainsi devant une élégante villa construite dans le style mauresque et au-dessus de la porte de laquelle une plaque de verre portait ces mots en lettres d'or « Bishop's Bar ». Sans être le moindrement ému, John Robbins crispa sa main gauche sur la crosse de son revolver et, de sa main droite, appuya longuement sur le bouton de cuivre d'une sonnerie électrique encastré dans le mur de briques. 2 minutes se passèrent. Soudain, de l'autre côté de la porte, une voix demanda « Qui est là ?»« Hunger !» répondit John Robbins en contrefaisant sa voix. Pas de réponse, mais lentement, la porte s'ouvrit. Sans hésiter, le détective cambrioleur entra. Il vit devant lui un homme vêtu d'un costume de toile bleue qui tenait en main un robuste Bowie knife. L'homme, d'une poussée, referma la porte et dit « Suis-moi, compagnon !» John Robbins obéit. Derrière son guide, il franchit un étroit couloir éclairé de loin en loin par des veilleuses et qui aboutissait à une porte de chêne plaquée de fer. Sans prononcer une parole, l'homme l'ouvrit au moyen d'une clé qu'il sortit de sa poche. « Passe !» dit-il brièvement à John Robbins. Le détective cambrioleur ne s'étonnait de rien. Il entra dans une vaste salle remplie de gaillards à mine sinistre. 3 lampes à pétrole pendues au plafond l'éclairaient. Un brouhaha confus produit par les interpellations, les jurons, les cris rauques de l'assistance s'entendaient. L'âcre et épaisse fumée des pipes emplissait le local d'un nuage gris. Scellés au sol par les crampons de fer, John Robbins vit quelques tables surchargées de bouteilles de vin et de whisky autour desquelles les individus discutaient âprement. Leurs couteaux et leurs revolvers posés devant eux indiquaient leur volonté d'appuyer leur raison par des arguments irréfutables. John Robbins reconnut parmi eux les principaux malandrins de San Francisco. Il pensa que James Molescott aurait payé fort cher pour se trouver à sa place. « Mais j'ai manqué ma vocation, se dit-il. J'aurais fait un excellent détective, mais voyons terminer cette affaire. » Lorsque John Robbins était entré, nul n'avait fait attention à lui. Le Bishop's Bar était le rendez-vous des membres de la main ouverte qui venaient boire en paix sans s'inquiéter les uns des autres. John Robbins réfléchit quelques instants au moyen de délivrer Jeremy Flipot. Il n'avait demandé aucun détail sur la main ouverte à Ben Howick, craignant que le bossman du Corizon ne lui tendît quelques pièges. Aussi ne savait-il que fort peu de choses sur la sinistre association. Mais d'autre part, il en connaissait presque tous les membres qu'il avait eu l'occasion de fréquenter sous différents déguisements. C'était son seul atout. Il résolut de s'en servir. Sans hésiter, il marcha vers un grand gaillard qui, attablé tout seul devant une bouteille de whisky presque vide, paraissait en proie à de sombres réflexions. John Robbins lui mit la main sur l'épaule en disant « Hello, Jasper, vieux gibier, ça va pas alors ?» L'homme se retourna, l'air menaçant. « Qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que je te connais? Allez, file !»« Oh, un vieil ami comme moi !»« Tu me reconnais pas, Jasper ?»« Nicolas Bush, voyons !» Nous étions ensemble à Sing Sing. De fait, le dit Jasper avait fait une cure de 5 ans à la prison de Sing Sing. John Robbins ne l'ignorait pas. Ce souvenir adoucit le bandit. On connaît tant de monde en prison. Il répondit, « Oh, tu es Nicolas Bush. Je me souviens plus de toi, mec, n'importe, allez. » Tu vas boire un verre avec moi. Cher Jasper, mais toujours aussi aimable. Oh, j'ai des ennuis. J'ai raté hier un cambriolage et le vieux somme qui était avec moi a été pris. Oh, fichu métier, et toi? Moi, dit John Robbins, oh, cela va assez mal. Je viens de faire un voyage en Australie avec Bon Hawick et Ben Hawick, oh, vous êtes arrivé ce soir, pas vrai. Chobul est venu nous dire tout à l'heure que la police vous avait arrêté tous. Heureusement que Chobul avait pris ses précautions. Le vieux flipote qui avait des intérêts dans l'affaire est ici depuis 2 jours. Quant à Biggie Black, Chauvier lui-même l'a rendu muet. Mais comment as-tu fait pour échapper à la police? Oh, on sait se débrouiller, fit mystérieusement John Robbins en clignant de l'œil. Tu as raison, garde ton moyen, on sait jamais, crois-moi. Et t'as vu, Chauvier, oh, ce qui sera content, ce qui va savoir ta présence ici. Fire-toi qu'il est dans une fureur terrible. Il dit que l'affaire est ratée et que c'est la faute de Ben Hawick. Est-ce vrai? Oh, oui et non. Et Chomel est ici? Mais oui, dans la salle du fond. Viens avec moi, nous allons le voir. John Slamin aurait dû dire « Je viens avec toi ». Car s'il connaissait le dénommé Chomul, voleur émérite et assassin au besoin, il ignorait et pour cause l'endroit où se trouvait la salle du fond. Jasper, en homme économe, empoigna la bouteille de whisky posée sur la table et d'une lampée la vida. « Allons-y, » dit-il à Robbins en se levant. Les deux hommes traversèrent les groupes de bandits et arrivèrent devant la vaste cheminée dans laquelle brûlaient des briquettes de pétrole solidifié. Jasper appuya sur une des moulures du manteau de la cheminée. Un côté de celle-ci tourna aussitôt sur lui-même et découvrit une étroite ouverture dans laquelle les deux hommes passèrent. Cette issue donnait sur les appartements du sieur Chomul, propriétaire du Bishop's Bar. Et en cas de descente de la police, elle servait aux bandits pour fuir. Les deux hommes, après avoir traversé un petit corridor, pénétrèrent dans une sorte de salon au milieu duquel un petit être, mine chafouine, était penché sur une table où se trouvaient des plans. M. Chomel était en train de combiner le cambriolage d'une riche villa d'Auckland. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » grommela-t-il en entendant entrer les deux hommes. « Oh, beaucoup de choses !» répondit John Robbins. « J'ai pu m'évader du cachot de la sûreté tout à l'heure. »« Je ne connais pas !» fit Chomel l'air défiant. « Je suis Nicolas Bush. » « Je suis embarqué sur le Corisandre avec Ben Hawick. »« Ah, tu étais sur le Corisandre? Un peu. »« Et tout à l'heure, la police nous y a gentiment cueillis. Même que Benawick n'est pas content. Il m'a dit que tu aurais bien pu préparer un canot pour notre arrivée. Et d'autres disent comme lui. Mais je croyais que tout se passerait bien. Depuis 2 jours, j'avais enlevé Flipote. Oh, c'est la faute à ce misérable Buggy Black qui, malgré moi, m'a glissé entre les mains. Mais je l'ai rattrapé ce soir, et il n'a rien perdu pour attendre. John Sobbins hocha la tête. Il était content de lui. C'était maintenant Chomoul qui non seulement ne le suspectait plus, mais encore se justifiait devant lui. Oui, dit le détective cambrioleur, tout cela est bien ennuyeux. Benawick a les diamants? John Sobbins, sans répondre, indiqua du regard Jasper qui, immobile, l'écoutait en silence. Va-t'en, Jasper, ordonna Chomoul. L'homme obéit. Alors, Benawick a les diamants, répéta Chomoul dès que Jasper eut disparu. Non, mais il sait où ils sont. Mais où cela? À Fremantle. À Fremantle, mais c'est pas possible. Si, au dernier moment, Arundel a réussi à les voler au sub des cargues. Mais qui est Arundel? Le capitaine du Corisandre. Il est fou. Il est fou. Eh oui, mais laisse-moi finir. L'Arundel, qui était l'homme de Flipote, a volé les diamants à Smiley, le sub-Ricard. Et pourquoi? Écoute, Chomul, si tu m'interromps tout le temps, nous n'en finirons jamais. L'affaire est que Arundel a déposé des diamants dans une banque de Fremantle. Et Benawick ne l'a su que le jour où Arundel est devenu fou. Mais comment? Mais Arundel est devenu fou parce que Benawick l'a torturé pour savoir où étaient les diamants. Il croyait qu'ils étaient à bord. Quel idiot! Il est certain que Benawick n'a pas été fin, acquiesça John Sobbins. Pour l'instant, il nous faut remettre en liberté Jeremy Flipote. Mais toi, tu es fou. Non! Jeremy Flipote doit avoir reçu le récépissé des diamants. Déjà, peut-être, les a-t-il fait envoyer. Ce que je ne crois pas, car il doit avoir peur que Buggy Black y ait son associé. Oui, je le sais. Mais laisse-moi parler. Il doit avoir peur que Buggy Black sache qu'il a les diamants. Il va donc les laisser dormir dans sa banque de Fremantle, d'où il peut seul les retirer, comprends-tu? Et si je lui faisais signer un papier? Fait Chomul avec un sourire sinistre. J'irai ensuite chercher les diamants. Et l'honteux coffret, puisque tout le monde sait que Jérémy a disparu. Oui, tu as raison. Eh bien, tu vas donc lâcher Flipote. Nous lui banderons les yeux afin qu'il ne sache pas d'où il vient et nous l'abandonnerons dans le quartier chinois. Puis d'ici 15 jours ou 1 mois, quand tout le monde l'aura bien revu, nous irons lui rendre visite et, en le menaçant de dénoncer ses manigances à la police, nous lui ferons écrire une lettre par laquelle il chargera l'un de nous d'aller chercher les diamants. S'il refuse, je le ferai accuser par le chief officer du Corisandre, qui affirmera qu'Arundel lui a avoué avoir assassiné le subrécarde sur son ordre. Sais-tu, Nicolas Bush, que tu es rudement fin? Je ne t'avais point apprécié jusqu'ici, mais dorénavant j'aurai l'œil sur toi. Tu as raison. Je vais de suite faire sortir Flipote. Tu l'accompagneras toi-même à Frisco en voiture. Reste ici, tu sortiras par derrière avec Flipote. Il est inutile que les camarades soient au courant. On est toujours trop. Je vais moi-même atteler la voiture. Bon, j'attends. Chaboul, après avoir été poussé à un verrou qui mobilisa la communication de son appartement avec la salle commune, disparut par une autre porte. John Sobbins restait seul, se frotta les mains. « Mais tout va bien, pensa-t-il. Et peut-être ai-je dit la vérité sans le savoir. En attendant, bientôt ce cher Flipot sera entre mes mains. Sans qu'il s'en doute, je lui rends un signalé service et qu'il faudra que je lui fasse payer à l'occasion. » Cependant, après 10 minutes d'absence, Chaboul apparut. « La voiture est attelée, dit-il. Tu la ramèneras ici après avoir déposé le colis. Viens m'aider à le remonter. » En silence, John Sobin suivit son hôte. Derrière lui, il gagna le vestibule, dans lequel Chaboul prit une lampe, puis ouvrit une porte basse qui conduisait à la cave. Les deux hommes, après avoir descendu une 20aine de marches, arrivèrent devant une porte vermoulue que Chaboul ouvrit. John Sobin s'aperçut alors, garrotté des pieds à la tête, un vieillard aux vêtements élégants, quoique maculés, qui gisait sur le sol boueux. « Aide-moi à le lever, Nicolas. Là, allez, prends-le par les pieds. C'est cela, bon, allez, en route. Je reviendrai fermer après. La cage peut rester ouverte quand l'oiseau n'y est plus. » John Sobin, tenant les pieds du prisonnier, et Chaboul soutenant par les épaules, remontèrent lentement. Ils traversèrent le vestibule et sortirent dans le jardin, au bout duquel, devant la grille, un élégant tonneau attendait. Les deux hommes y laissèrent Jérémy Flipot. « Il est bientôt 4 heures du matin, » dit Chaboul. « Tu as donc le temps. Avant 6 heures, le quartier chinois est désert. » À propos, allez, bâillonne le vieux, il pourrait crier. Oh, des craintes, je file, je reviendrai aussitôt. À tout à l'heure. Au revoir, Nicolas. John Sobbins, ayant délié la bride du cheval qui était attachée à la grille, sauta dans la voiture et rendit les rênes à l'animal qui prit aussitôt le galop. Bon cheval, dit le détective cambrioleur. « Et agréable voiture, qui est parfaitement suspendue. Où Chaboul l'a-t-il volée? Je l'enverrai à ma villa de Los Angeles. J'en ai justement besoin d'une semblable. » En quelques instants, John Sobbins arriva devant le buisson de cactus derrière lequel il avait laissé ses hommes. Il fit entendre un léger coup de sifflet qui les fit aussitôt accourir autour de la voiture. « Tout va bien, » leur dit-il. « Au canot, au pas de gymnastique !» Les 11 hommes prirent immédiatement leur course vers la plage. John Sobbins, ayant remis son cheval au petit trot, se tourna vers Jérémy Flipot, qui était couché dans le fond de la voiture, et lui dit « Cher monsieur Flipot, vos souffrances, je l'espère, sont terminées. Je pourrais vous bâillonner, je ne le fais pas. J'espère donc que vous allez me donner votre parole d'honneur de me pousser aucun cri, n'est-ce pas? Vous l'avez, monsieur. Je suis John Sobbins. » Le vieillard ne trouva pas de mots pour exprimer sa stupéfaction. Il était entre les mains du fameux John Sobbins. Il se demanda aussitôt combien allait lui coûter pareille mésaventure. La voiture s'arrêta. Elle était arrivée sur la plage. Au coup de sifflet de John Sobbins, l'homme qui était resté dans le canot automobile échoua à l'embarcation à quelques mètres de l'endroit où stationnait la voiture. Jérémy Flipot fut porté dans le canot. Après quoi, John Sobbins et sa petite troupe s'y embarquèrent, à l'exception d'un homme que le détective cambrioleur chargea de ramener le cheval et la voiture dans une des nombreuses villas qu'il possédait aux environs de San Francisco. À l'aide d'une gaffe, le canot fut déchargé et ses moteurs, mis en avant, fila vers Cliff House. Une demi-heure plus tard, la petite embarcation pénétrait dans la crypte servant d'abri à John Strabbins. Sur les ordres du détective cambrioleur, Jerome Flipot fut aussitôt débarrassé de ses liens et mené dans le confortable salon où, 2 heures auparavant, John Strabbins avait interrogé Ben Howick. Le détective cambrioleur était exténué. Il fit enfermer soigneusement Flipot et, remettant à plus tard la suite de cette affaire, gagna la chambre à coucher qu'il s'était installée dans une des cryptes voisines et ne tarda point à s'endormir. Il était 5 heures du matin.